Belle journée à l'écoute d'Europe 1, il est 13h01.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, j'ai une heure pour vous montrer que la France bouge et que c'est vous qui la faites changer. Gros plan aujourd'hui sur le monde du travail. Si vous êtes de retour au bureau ce lundi, ça va vous parler. C'est au bien-être en entreprise qu'on a décidé de s'intéresser et c'est une problématique ici en France qui est de plus en plus prise en compte. Ils ont 60 ans cette année, sont français, très discrets et pourtant le groupe Omerin est numéro 1 mondial des câbles. C'est l'entreprise qui va bien. Merci. Elle veut écrire avec les enfants leur avenir pour imaginer avec eux le meilleur des futurs. Startup for Kids est la solution aujourd'hui. Sélectionnez s'il vous plaît dans la catégorie éducation au trophée de l'avenir Europe 1. Ça y est, le compte à rebours est lancé. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, vous connaissez évidemment le numéro à composer. Venez, venez, on vous attend, hein, Anissa, si pour vous aussi c'est le retour au bureau.
Ah bah oui, vous êtes peut-être dans une entreprise qui a mis en place des solutions pour améliorer votre bien-être au travail. Eh bien, venez nous le dire. Vous avez des idées, des solutions, on vous écoute. 3921, c'est le standard d'Europe 1. Et on vous lit également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
On a donc décidé de s'intéresser à votre bien-être au travail aujourd'hui. Dites-nous, tiens, par quoi ça passe? Ça nous intéresse. C'est un secteur, vous allez le voir en tout cas, qui est en pleine mutation et des Français ont décidé de faire bouger le marché. Pour en parler, à mes côtés, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et c'est aujourd'hui Riyad Boulanoir qui se glisse dans le rôle du coach. Bonjour Riyad.
Bonjour Raphaël.
Fondateur du compte Nickel, bien sûr, de la méthode Boulanoir aussi. Des entreprises qui, vous allez le voir, sont assez nombreuses hein, sur ce secteur qui est en pleine mutation, à commencer par Workwell, dont l'ambition est ni plus ni moins de devenir numéro un du bonheur au travail. Bonjour Marie Schengens.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Je crois que c'est à San Francisco, en fait, au départ, qu'est née cette idée. L'ancêtre, hein, si j'ose dire, de Workwell, c'est un peu ça?
C'est ça. Donc, j'étais étudiante en France, à Dauphine, et en parallèle à la Goethe-Universität à Francfort. Et donc, pendant mon cursus, j'ai participé à un hackathon. Et dans ce hackathon, pendant 3 jours, tu passes d'une idée à un prototype. Et avec mon équipe, on a gagné un prix. C'était dans un incubateur à San Francisco pendant 3 mois. Et donc, c'est génial parce que du coup, tu es entouré de coachs comme aujourd'hui. Et ça t'aide à passer de quelque chose de concret et à se dire que c'est possible. Et quand on veut, on peut y arriver.
Et alors, du coup, à San Francisco, avec vos équipes, vous décidez de lancer quelque chose qui s'appelle Never Eat Alone, c'est-à-dire pas aller manger tout seul avec sa salade dans un coin sans avoir personne à qui parler. Et puis, ça va faire des petits.
Alors, donc, pendant mes études, j'étais obligée de faire un stage. Et donc, je me suis retrouvée dans un grand groupe, dans un siège, dans une grande banque en Suisse. Et quand je venais d'arriver, je ne connaissais personne et il n'y avait pas de moyen simple de pouvoir se dire si j'ai envie d'aller courir aujourd'hui, qui d'autre dans mon immeuble a aussi envie d'aller courir? Et donc, je me suis dit comment aider grâce à la technologie de rendre des liens plus faciles et que les gens, s'ils ont envie, même s'ils sont un peu timides, ils peuvent rencontrer d'autres collègues et ainsi se sentir mieux au travail.
Alors, ça a l'air tout simple hein, quand vous nous expliquez tout ça, mais Elisabeth, il faut bien dire que chez nous, en France, c'est quand même assez récent le bien-être en entreprise.
Oui, et de plus en plus d'entreprises s'intéressent à cette préoccupation du bien-être au travail. Certaines ont la conviction de la nécessité de mesurer ce bien-être pour agir et améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Ce phénomène au sein des entreprises, c'est de s'occuper du bonheur des employés. Ça fait partie même des techniques de management. Le management du bonheur qui se traduit évidemment par l'arrivée de ce que l'on connaît ici à la France Bouge, des Chief Happiness Officer,
oui,
des responsables du bonheur en entreprise, ou encore de l'installation d'espaces de travail ludiques, pourquoi pas des baby-foot. Il y a même des entreprises qui ont des toboggans ou des salles de sport privées, tout un tas d'outils pour tenter d'être heureux au travail.
Oui, alors si les entreprises ont commencé à y réfléchir, c'est aussi parce que le mal-être au travail, eh ben, tout simplement, ça a un coût.
Et oui, il a été estimé à 12 600 euros en France par salarié dans le secteur privé. C'est une étude du cabinet Mozart Consulting récente. Et c'est aussi en raison du coût que de nombreuses entreprises se sont dit on va mener des actions de prévention pour limiter ce manque à gagner, parce qu'il ne faut pas oublier que le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc on va faire en sorte d'améliorer le bien-être au travail pour améliorer la productivité des salariés.
Alors Marie, vous, ce n'était pas l'idée hein, d'améliorer la productivité, c'était tout simplement d'être mieux dans ses baskets quand on arrive au boulot. En rentrant de San Francisco, vous décidez finalement de de continuer l'aventure et d'accélérer et vous créez donc la plateforme Workwell.
C'est ça. Donc en rentrant de San Francisco avec mon équipe de développeurs, on a commencé à créer une solution pour que les gens mangent ensemble. Et après, grâce à nos retours des clients, parce qu'on commençait à avoir des grands groupes ici en France, mais aussi à l'étranger, qui nous demandaient de faire plus que déjeuner ensemble. Aussi d'accéder au menu du restaurant d'entreprise, d'accéder aux cours de sport.
C'est eux qui sont venus vous demander d'ajouter finalement des choses dans l'éventail, hein, que vous présentiez.
Et donc ça faisait beaucoup de sens pour le collaborateur d'avoir un outil unique avec tous ses services liés à sa vie au travail pour éviter de télécharger pour chaque service une application en plus. Et donc c'est là où on s'est dit pourquoi pas s'inspirer de WeChat qui est en Chine le leader pour tout ce qui est messagerie et service au sein d'un même outil, pour s'inspirer de ça pour le monde du travail, pour avoir un outil et ainsi simplifier la vie du collaborateur.
Que dit notre coach ?
Déjà, bravo, mais comment vous gagnez votre vie ?
C'est beaucoup de travail.
Et beaucoup d'investissement ?
Alors, au début, c'était énormément de tech à faire. Et donc, on a dû recruter les meilleurs développeurs. Et en France, on a de la chance, on a les meilleures écoles. Et donc, on a eu rapidement des premiers clients. Et après ça, on a eu des investisseurs qui ont cru en nous et qui sont aussi des mentors et qui nous ont fait grandir.
D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien alors ?
Alors aujourd'hui, on est 25. On a des bureaux à Paris, on a ouvert à New York et récemment, depuis quelques semaines, en Australie. Et ça, ce n'était pas du tout dans notre plan. Et c'est ça qui est génial aussi quand tu es entrepreneur, c'est que tu as des demandes, tu as envie de les aider. Et donc, il faut aider les personnes du monde entier. Et donc, il faut même aller en Australie.
Et il y a combien d'utilisateurs actifs aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on travaille avec une cinquantaine de grands groupes. Ouais. Et donc, ça équivaut à plus de 100 000 personnes. Bravo. Et donc, c'est un travail à faire pour toujours améliorer le quotidien des collaborateurs.
Oui, du coup, vous avez mis en place cette convivialité entre les salariés, avec vos équipes aussi. Hein. C'était l'application de ce que vous aviez créé à votre niveau. Ceux qui ont visité vos bureaux le disent, on se croirait finalement en plein San Francisco chez vous quand on pousse la porte.
Alors, quand on est revenu de San Francisco, on n'avait pas de bureau. Donc, on a commencé au Jardin des Tuileries parce que j'avais envie de rester dans la nature. Et après ça, nos développeurs nous ont dit, nous, on a besoin d'un bureau. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas retrouver une maison ? Parce qu'à San Francisco, je vivais avec une dizaine d'entrepreneurs de moins de 23 ans. On vivait au même endroit où on travaillait et j'adorais ça parce qu'il y avait une entraide. Et de retour à Paris, je me suis dit, je vais trouver une maison aussi. Et donc, à chaque fois, autour de moi, je demandais, est-ce que vous n'auriez pas une maison ?
Pour 25.
Et grâce à ça, exactement.
Elle n'est pas bleue ?
Non, elle n'est pas adossée à la colline.
Et donc, on a trouvé une maison dans le 17e, près de Pereire. Et donc, moi, j'habite dans cette maison et on a aussi deux chambres d'invités. Et donc, ça permet à notre équipe, si elle le souhaite, de rester. Parce qu'on a des développeurs qui habitent, par exemple, à Rennes. Et donc, quand notre développeur iOS vient à Paris, il peut rester dormir.
C'est la convivialité jusqu'au bout. On se retrouve dans un instant, vous voulez bien ? On va continuer à parler du bien-être au travail.
Il est 13h10.
Europe 1.
Vous aussi, vous en avez marre de passer vos journées assis. Et si on marchait ? Tiens, en travaillant, c'est l'idée du fondateur d'ActiveUp qui va nous rejoindre dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui, en ce 7 janvier, c'est peut-être votre jour de retour au travail. Eh bien, on s'intéresse à votre bien-être au travail avec de nombreuses solutions. Vos invités sont là pour nous les présenter. Raphaël Duchemin, vous pouvez réagir au 39-21.
À mes côtés, Elisabeth Assayag et notre coach aujourd'hui, Riyad Boulanoir. Je n'ai pas fait les comptes, mais peut-être que vous aussi. En une journée au bureau, on passe des heures les fesses vissées à son siège, devant son écran, si on travaille avec un ordinateur. Et ça n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour notre santé. Bonjour Marc Touvenin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est en partant vous aussi finalement de ce constat que vous avez créé ActiveUp. En 2013, vous découvrez en fait qu'aux États-Unis, il existe des bureaux où l'on peut marcher en même temps. Et vous vous rendez compte qu'ici chez nous, il n'y en a pas. Vous décidez du coup d'en fabriquer un, c'est ça ?
Oui, absolument. En fait, j'étais dans la situation où sont actuellement mes clients, c'est-à-dire que je passais toutes mes journées assis et en plus, c'était une période où je travaillais à la maison. Et donc, comme beaucoup d'entre vous, j'étais toute la journée assis. Et oui, c'était terrible. J'étais devenu un petit peu gros, pas très en forme, mal au dos, etc.
Oui,
j'ai vu
bien de quoi vous parlez. Voilà.
Et donc, j'ai vu une vidéo sur Internet où j'ai vu dans une start-up américaine, ils montraient justement ce walking desk, ce tapis avec un bureau. Et je me suis dit, j'en veux un. Et puis, à l'époque, là, on parle de fin de l'année 2013, c'était absolument impossible de trouver ce type d'équipement en France, ni même en Europe. Et donc, je m'en suis bricolé un. Et puis,
Attendez, parce que moi, si, même si j'essaye, je ne vais pas y arriver. Comment vous avez fait pour bricoler
J'ai acheté un tapis, j'ai enlevé les arceaux, vous voyez, où il y a le pupitre de commande, etc. J'ai bricolé un bureau debout. Et puis, j'ai commencé à l'utiliser. Et le premier mois, donc c'était au mois de janvier 2014, j'ai fait 500 km sur mon tapis roulant en travaillant. Et c'était absolument génial. J'ai eu tout de suite plein de bénéfices en cascade, comme le fait de mieux dormir, le fait de tout de suite commencer à perdre du poids, etc. Et puis une énergie incroyable. Mmh. C'est-à-dire que quand on bouge, on a l'énergie. Voilà, c'est plus on dépense d'énergie, plus on en a. C'est paradoxal.
Et alors, ce qui est génial, c'est que vous postez la photo sur Facebook et que du coup, on vous en demande.
Et c'est vrai, c'est le côté au début, comme ça. On
un peu poste collaboratif.
On poste la photo pour dire, j'ai trouvé une solution à mon problème. Et puis, de manière assez spontanée, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, j'en veux un, etc. Je dis, mais moi, je me suis fabriqué moi-même, mais bon, voilà. Et donc, ça m'a pris à peu près 6 mois. Et puis, j'ai réussi à construire une solution comme ça, que j'ai commencé à vendre. Et puis, ça a marché tout de suite. On a tout de suite eu des premiers clients, on va dire, à l'automne 2014. Et puis après, on a eu beaucoup de grandes entreprises de toute taille.
Au départ, vous vendez seulement et puis après, vous vous mettez à fabriquer. Alors, vous sous-traitez et puis finalement, vous rapatriez une partie ici en France et vous décidez de le faire vraiment.
Voilà, en fait, effectivement, quand on démarre une activité, c'est un peu ce que font les entrepreneurs.
On
tâtonne un peu, puis on essaie tout de suite d'avoir quelque chose à vendre, parce que quand on voit qu'il y a des clients, on essaie tout de suite de trouver quelque chose à vendre. Alors, donc, il s'est trouvé qu'il y avait eu un bon timing, puisqu'il y avait le fabricant leader américain qui commençait à vouloir vendre en Europe, et donc il commençait à rendre ses produits disponibles. Donc, on a commencé à les vendre, et puis en fait, on s'est rendu compte en les vendant que les clients, ils ne voulaient pas un produit américain qui ressemble un peu à un blocos, un truc très robuste, mais pas du tout joli, etc. Donc, on a commencé à faire des beaux bureaux avec du bois massif, etc., des salles de réunion, tout un tas de choses pour répondre en fait, à ce que voulaient les clients, c'est-à-dire un vrai bureau où ils ont envie d'être, mais qui permet aussi une demi-heure, une heure par jour de marcher.
Qu'en dit notre coach ?
Moi, je peux pas le contredire. Je suis un grand marcheur. Je passe mon temps à tourner en rond dans les salles de réunion. Je suis connu pour ça. Je marche en permanence parce que ça m'aide à la concentration. C'est un joli parcours. Ça coûte combien votre
On a toute une gamme en fait entre des particuliers ou des indépendants qui travaillent à la maison jusqu'à des entreprises. Ça va être entre 1500 et 4000 euros suivant les modèles. Et puis on fait aussi beaucoup de la location parce qu'en fait les entreprises elles veulent expérimenter. Elles veulent mettre en place et puis aussi elles veulent un coût, on va dire tous les mois, plutôt que d'avoir un investissement à faire. Et donc on fait des locations, ça commence à peu près à 180 euros par mois, donc c'est accessible à n'importe quelle entreprise. Et c'est cette formule-là qui est la plus populaire.
Anissa,
alors vous parliez du gain sur votre santé, que vous avez perdu du poids, vous dormiez mieux parce que vous marchiez beaucoup tous les jours. Mais est-ce qu'il y a un gain professionnel ? Est-ce qu'on est plus productif quand on marche ?
Oui, alors ça, c'était la surprise. En fait, ce n'était pas pour ça au début que je le faisais, mais effectivement, on est beaucoup plus productif, beaucoup plus concentré. Et ça a été prouvé par des études, notamment aux États-Unis, à Stanford et à Montréal, qui montrent en fait que le fait de bouger, en fait, on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, plus d'oxygène, le taux d'oxygène dans le sang qui va être augmenté, meilleure oxygénisation du cerveau, un peu d'endorphine quand on commence à marcher pendant 30 minutes ou plus. Et donc, en fait, ça a été prouvé qu'on est plus productif en marchant.
Et on a même les chiffres, Elisabeth.
Ouais, d'ailleurs, ça a été prouvé que le sport augmente la productivité de 6%. 6%, c'est l'équivalent de 3 semaines de travail.
Elisabeth, je crois qu'on a aussi des applis qui permettent de mesurer justement ce fameux bien-être au travail.
Oui, alors j'ai trouvé l'application Our Company, Our Co, O-U-R-C-O, qui permet de mesurer quotidiennement son niveau du stress, son humeur et son énergie. Comment ça marche ? Vous pouvez rejoindre des collègues, vous pouvez créer votre groupe, échanger de façon anonyme ou non, parce qu'on n'a pas forcément envie de raconter comment on se sent à l'intérieur même d'une entreprise. Et vous mesurez chaque jour donc ces 3 critères, le stress, l'humeur et l'énergie. 3 indicateurs sont symbolisés par des émoticônes et on voit une petite pile plus ou moins chargée. On répond à des questions du type « Suis-je stimulé par mon travail ? Ai-je du mal à décrocher de mon travail ?» Et ça permet donc d'étayer le résultat. Ou encore, vous avez WeSpoon. Là aussi, c'est un outil collaboratif d'entreprise qui permet donc aux salariés de se connecter entre eux et d'échanger sur leur bien-être au travail.
Marc, moi qui suis assise sur ma chaise une bonne partie de la journée, c'est quoi la durée d'utilisation du du walking desk moyenne?
Alors,
pas la vôtre. Hein.
La mienne, j'en parle même pas parce que j'ai fait plus d'un million de pas en décembre sur le mois. Mais c'est vrai que c'est un usage un petit peu excessif parce que la plupart de nos clients vont utiliser une demi-heure, une heure par jour, ce qui est déjà énorme. Super et qui correspond à la recommandation de l'OMS.
Les fameux 10 000 pas par jour.
Les 10 000 pas. Alors, pour faire les 10 000 pas, c'est plutôt une heure et demie, mais c'est vrai que... on peut faire déjà 30 minutes sans s'arrêter. Donc, ce qui est important, c'est de faire une activité physique continue et pas seulement de bouger un petit peu toutes les 5 minutes, aller à la machine à café, etc. Faire une activité continue.
On reste ensemble. On continue à parler bien-être au travail aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1.
Et si, en plus de tout ça, on pouvait aussi faire des micro-siestes, est-ce que le quotidien en entreprise ne serait pas totalement différent? C'est le principe de Nap and Up. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et en ce 7 janvier, c'est peut-être jour de rentrée pour vous au travail. Alors on s'intéresse à votre bien-être au travail avec de nombreuses solutions qui existent. Nous les découvrons grâce à vos invités, Raphaël Duchemin. Et vous pouvez réagir, n'hésitez pas à proposer vos solutions, à nous dire ce qui se passe peut-être à vous dans votre entreprise. 3921, c'est le standard d'Europe 1 et Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Nous sommes avec Elisabeth Assayag, comme chaque jour. Avec notre coach aujourd'hui, c'est Riyad Boulanoir qui nous accompagne. Je vous propose de faire une petite sieste, 20 minutes, hein, pas
génial.
Plus, c'est suffisant, en tout cas pour repartir du bon pied. Et dans une journée de travail, ça peut s'avérer plus que bénéfique. C'est en partant de ce constat qu'est né Nap and Up, Nap, la sieste évidemment en anglais. Bonjour Camille Desclés.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez inventé un cocon, c'est ça, pour des micro-siestes?
Alors effectivement, avec Nap and Up, on propose d'une part un produit qui est notre cocon de micro-sieste. C'est une petite bulle de déconnexion qu'on installe dans les espaces de travail, dans les locaux des entreprises. L'idée étant vraiment de proposer un sas de décompression aux salariés sur leur journée de travail pour qu'ils puissent recharger leur batterie.
Racontez-moi, ça vous est venu comment cette idée de micro-sieste?
Alors c'est une idée qui est née à la fac puisque j'ai rencontré mon associé Gabriel De Valmont à l'Université Paris-Dauphine. Et déjà, on était dans des espaces de travail extrêmement fatigants, bruyants, où c'était compliqué de se poser 10-15 minutes entre deux révisions, deux partiels pour se reposer. Et on s'est vite rendu compte que c'était la même chose en entreprise, surtout qu'on est de plus en plus dans des espaces de travail très ouverts, des open space, où c'est compliqué de se retrouver un petit peu seul pour recharger ses batteries. Avec également en entreprise la dimension culturelle, c'est compliqué parfois de parler de sommeil ou de déconnexion sur son lieu de travail. Et c'est pour ça qu'on a aussi tout un accompagnement et un programme de sensibilisation à la micro-sieste pour pouvoir l'intégrer dans les mœurs de l'entreprise.
Vous étiez donc étudiante, vous n'aviez pas du tout envisagé un jour de devenir entrepreneur?
Pas du tout, c'est vrai que c'est avant tout une opportunité et un binôme qui s'est formé avec mon associé qui a fait qu'on s'est lancé parce qu'on a eu ce constat, on a eu ces observations autour de nous et rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin et en se lançant ça a tout de suite très bien marché.
Alors vous vous lancez et le premier il est un peu artisanal on va dire, vous le fabriquez où et comment?
Alors c'est effectivement un premier prototype, un premier cocon qui était physiquement complètement différent, c'était plus une petite cabine mais qui nous a permis pendant un an d'expérimenter notre concept, de le faire tester auprès d'utilisateurs, d'entreprises et d'avoir des retours, des vrais retours, des vrais constats pour designer notre second produit dont je vous parle aujourd'hui, qui est une petite bulle et qui intègre du coup toutes les contraintes culturelles qu'on a pu identifier.
Alors cette bulle, c'est une sorte de coque, elle s'installe très vite, hein, je crois, en 5 minutes seulement?
Exactement, le cocon est flexible, on l'installe, on le désinstalle en 5 minutes, c'est une contrainte qu'on a identifiée, c'est voilà, le besoin de flexibilité des espaces de travail. Il y a une coque qui se referme, donc vous êtes visuellement complètement isolé, il y a un fauteuil de relaxation en position semi-allongée, vous êtes équipé d'un petit audio de micro-sieste qui vous aide à lâcher prise, qui vous réveille au bout de 15 minutes. C'est très important d'avoir un produit clé en main avec lequel vous êtes guidé de A à Z.
Et c'est commercialisé depuis un an?
Alors le produit dont je vous parle, il est né il y a 9-10 mois à peu près. Donc il est commercialisé depuis. On en a déjà installé une bonne trentaine en entreprise.
Et ce qu'on n'a pas dit, et c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est fabriqué de A à Z en France.
100% made in France, effectivement. On produit nos cocons en Bourgogne avec deux ateliers, dont un qui fait travailler des personnes en réinsertion.
Riyad, le coach.
Bah moi, je l'ai essayé, le cocon est un peu un up, alors je peux en parler. Non, c'est super, c'est une vraie expérience. Moi, je suis un adepte aussi des micro-siestes, en plus de la marche pendant que je réfléchis. Donc, je fais aussi des micro-siestes.
Il est parfait, notre coach. C'est le bien-être de travailler avec.
Effectivement, c'est un outil qui est idéal pour l'entreprise parce qu'il vous permet d'être complètement isolé et de déconnecter pendant 15 minutes. Donc non, c'est super. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on est en pleine levée de fonds, on est en train de recruter des gens. Donc ce qui nous manque, c'est une vraie équipe. Aujourd'hui, on est 4 personnes. On a pour projet de recruter pas mal de monde dans les prochains mois pour aller plus vite, pour pouvoir nous développer commercialement partout en France, mais pas seulement, à l'étranger aussi, où on a des demandes. Donc c'est voilà, une équipe qu'on est en train de constituer.
Une levée de fonds de combien?
Alors on cherche à lever 300 000 aujourd'hui.
300 000 pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans votre projet.
Exactement, développer de nouveaux produits, développer toute une offre de services également qui vient en complément de l'installation des cocons.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a une offre de services de base qui comprend un accès à un système de réservation, aux audios dont je vous ai parlé, qui sont accessibles dans le cocon, à des recharges en tissu de protection pour l'hygiène. Et l'idée, c'est de proposer toute une offre de services pour faire vivre cet espace en continu dans l'entreprise.
Vous avez eu des retours d'expérience. Que vous disent les gens qui, peut-être au début, étaient un peu réfractaires et qui se sont convertis à ce cocon?
Alors, on a des retours d'expérience à la fois de nos clients qui sont du coup à l'initiative des espaces de sieste, qui eux sont très contents. Et c'est assez rigolo parce qu'on a fêté nos 2 ans là, au mois de décembre, et des entreprises qui nous fermaient un peu leurs portes au début reviennent nous voir aujourd'hui. Et à côté de ça, on a aussi des retours utilisateurs, des gens qui prennent la peine de nous envoyer des petits messages. On a eu des personnes épileptiques, des femmes enceintes, des parents de jeunes enfants qui nous disent que ça leur change la vie de pouvoir s'isoler et ne serait-ce que 5-10 minutes sur leur journée de travail.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé un petit équivalent.
Hein. Oui, ouais. Siestoun, vous connaissez.
Siestoun, ouais, hein. Connaît.
C'est un petit meuble, là aussi, fabrication 100% française. Alors lui, il ressemble à un petit bar, hein. C'est un petit meuble en hauteur, il ne prend pas trop de place, on peut même y poser ses affaires de travail. C'est assez pratique, par exemple, quand vous êtes sur un salon et que vous avez envie de vous reposer un petit peu, et un petit coup de mou, et là, il se transforme en petit refuge individuel pour une sieste ou un simple moment de détente.
Oui, on va peut-être en installer un. Qu'est-ce que vous en dites,
Anissa ? J'aime bien cette idée, moi je valide. Hein.
Nous aussi, on valide. On continue à parler bien-être au travail tous ensemble dans un instant sur
Europe 1. Il est
13h27.
Europe 1.
On vous attend, bien sûr. 39-21, vous avez des questions pour nos invités. C'est le moment de venir les poser et venir aussi tout simplement dialoguer avec nous. A tout de suite.
Le bien-être au travail, c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, la France bouge comme tous les jours jusqu'à 14h avec vos invités Raphaël Duchemin et toutes vos réactions. N'hésitez pas à témoigner, à réagir, à poser vos questions dès maintenant au 39-21, c'est le standard d'Europe 1, et puis sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Avec Riyad Boulanoir qui est notre coach aujourd'hui, avec à mes côtés Elisabeth Assayag et nos invités bien sûr Marie Schneegans, cofondatrice de Workwell. C'est une start-up qui a lancé une appli pour améliorer notre bien-être en entreprise. Marc Touvenin est là aussi, fondateur d'ActiveUp, leader des bureaux tapis de marche, dit les walking desks évidemment en anglais. Et puis Camille Desclés, cofondatrice de Nap and Up, le cocon pour faire la sieste en entreprise. Riyad, c'est vrai que on en parlait il y a quelques instants en micro. On pourrait faire une offre commune finalement.
Exactement, un package, le bien-être au travail, avec une appli, un bureau qui permet de dépenser les calories accumulées durant ses fêtes et un petit espace de sieste pour être toujours très productif. Voilà.
On a, et vous le disiez hein, Camille, un retour d'expérience. Alors des entreprises qui ont mis du temps parfois à se décider, mais aussi des utilisateurs. C'est la même chose pour vous, Marc. Vous avez eu des entreprises qui au départ étaient réticentes, se disaient mais attendez, qu'est-ce qu'on va aller faire sur un tapis? Et puis qui aujourd'hui vous disent vous avez bien fait de nous convaincre.
Oui, en fait, quand on les approche, d'abord ils trouvent ça très surprenant, pour pas dire pour certains absurde. Ils nous regardent avec des gros yeux en disant mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Puis en fait, le temps passe, et puis les médias en parlent aussi. Et puis on a, nous aujourd'hui, on a de très nombreux clients. On a la moitié du CAC 40, on a des grandes entreprises comme Google, comme Novartis. Mais on a aussi beaucoup de PME et de même des TPE. Et donc, et ça se voit, ils témoignent, certains même font des vidéos, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est des petites choses qu'on peut faire tous les jours qui fait que finalement, ça va... avoir la meilleure qualité de vie au travail, ça va réduire l'absentéisme, les gens seront plus motivés, plus enclins à travailler, plutôt dans une démarche vers la productivité aussi. Et tout ça, c'est possible avec des solutions aujourd'hui qui sont accessibles.
On a un petit message qui m'avait été posté ce matin quand j'ai annoncé l'émission sur le Twitter d'Europe 1 avec le hashtag Europe 1 qui nous dit « J'ai résolu le problème, moi, personnellement. J'ai un bureau au premier et la table basse du salon en bas. L'avantage d'être indépendant en informatique. » C'est vrai que finalement, monter, descendre l'escalier, c'est aussi une solution hein, toute bête, mais ça fonctionne.
Alors, c'est une très bonne solution. D'ailleurs, il y a même des entreprises où ils vont réduire la vitesse de l'ascenseur pour que ça soit finalement plus rapide de passer d'un étage à l'autre en prenant l'escalier. Ils vont décorer l'escalier parce que souvent l'escalier c'est un escalier de service, vous voyez, c'est du béton brut, etc. Donc là ils mettent des décorations dedans et ils favorisent en fait des petits gestes du quotidien. Il y a même François Carré qui est cardiologue à Rennes, et lui ce qu'il a dit c'est que moi j'ai mis ma corbeille pour jeter mes papiers à l'autre bout du bureau, et comme je suis très mauvais en basket, je suis obligé de me lever pour aller mettre les papiers à la poubelle. Et donc, il y a plein de petites démarches comme ça, quotidiennes à faire pour réintroduire une petite activité physique tout au long de la journée, mais légère.
Marie, depuis que vous avez lancé Workwell, est-ce que vous avez senti que les mentalités étaient en train d'évoluer ici en France ?
Énormément. Surtout, il y a de plus en plus de déménagements de grands groupes. Et donc, quand on déménage, on a envie de mettre en place de nouveaux services et améliorer la vie des collaborateurs dès qu'ils vont déménager. Et donc, c'est là où ils se posent des questions sur quels services mettre en place, comment le digital peut aider à faire l'offre de services. Et donc, on a beaucoup de chance, c'est qu'il y a un vrai besoin de changer.
Elisabeth ?
Oui, Marie, je m'adresse à vous. Workwell, vous disiez tout à l'heure que vous viviez dans votre espace de travail, qu'il y avait même deux chambres ou deux studios à disposition de vos salariés. C'est pas un peu trop ?
Alors, dans les premières années d'entrepreneur, c'est de toute manière très intense. Donc, tu travailles énormément.
Oui, c'est très intense, mais là, ça risque pas de justement.
Elle ne veut pas partager d'appartement avec moi. Je viens de comprendre à l'instant.
Le message est passé.
Alors, en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on a créé l'environnement de travail que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et donc, j'ai créé la maison avec un jardin. On a une salle au sous-sol où on fait du yoga et de la boxe thaï. Donc, j'ai créé l'environnement qui me correspond. Et bien sûr, ça correspond pas à tout le monde. Et donc, chacun fait comme il le souhaite. Mais pour moi, c'était idéal.
Il vaut mieux adhérer si on veut travailler avec vous.
Ça fait partie de l'entretien.
En tout cas, il faut qu'il y ait un éventail le plus large possible aujourd'hui, y compris en entreprise. C'est vraiment ça le message ?
Oui, et de permettre à chacun de travailler comme il le souhaite. Si on a envie de faire du télétravail, c'est important que l'entreprise le propose. Si on a envie de travailler plutôt la nuit ou le soir, beaucoup de développeurs n'aiment pas travailler le matin, il faut être flexible et ouvert à tous les modes de travail pour que le collaborateur se sente bien et épanoui, et au final, il va avoir le plus d'impact pour l'entreprise.
Camille, c'est aussi ça que ça permet finalement d'avoir des temps de repos, hein, des petites siestes, des micro-siestes, c'est pouvoir recharger les batteries et repartir encore mieux, encore plus productif finalement dans son travail.
Complètement, et je rejoins complètement Marc et Marie sur ce point. C'est vrai que mettre en place ce genre d'initiative, que ce soit des bureaux où on marche, ou des espaces de sieste, ou des applications qui nous permettent de nous rejoindre pour des temps de pause, c'est vraiment le challenge auquel doivent faire face les entreprises aujourd'hui. C'est s'adapter à la diversité des profils qui sont dans leur entreprise. C'est que chaque salarié puisse trouver son confort sur sa journée de travail.
Anissa, je crois qu'on a un petit message.
Oui, de Caroline qui nous écoute. Elle dit « Moi, le bien-être au travail, on parle beaucoup de sport, mais passerait par une crèche d'entreprise. Je serai l'esprit tranquille à laisser mes enfants sans contrainte d'horaire ni de grève possible. »
C'est quelque chose qui revient effectivement dans les demandes que vous avez pu entendre chez vos différents clients ou utilisateurs, Marie ?
Beaucoup de grands groupes nous demandent des crèches d'entreprise. Donc il y a Babylou par exemple qui a toute une offre pour les entreprises. Donc c'est en plein boom.
En plein développement. Riyad, le coach ?
Ouais, je trouve ça super parce qu'on est en train de remettre l'humain au centre du business. On l'avait oublié et puis on le remet maintenant et on le remet en force. Donc c'est une bonne chose, ouais.
Vous verriez quoi, vous, en étant justement patron ? Vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour mes salariés ? Qu'est-ce que je peux faire pour les gens avec qui je travaille ? C'est quoi la première idée qui vous vient ?
Moi, j'ai toujours été alerte là-dessus. J'ai toujours essayé de donner des bonnes conditions de travail, mais pour la simple et bonne raison qu'on en retrouve également la productivité, le bien-être, la bonne humeur, etc. Donc, j'ai toujours favorisé ça. Je n'ai pas considéré ça comme une perte ou comme mais plutôt comme un investissement qui, au contraire, se retrouve largement dans l'esprit d'équipe pour trouver tout ça. Donc, on arrive à faire des belles choses comme le compte nickel, d'ailleurs.
Alors, la suite, en un mot, Camille, c'est quoi pour vous et chez Nap & Up ?
Alors, le bien-être au travail...
La prochaine étape pour vous, c'est quoi ?
Alors, la prochaine étape pour nous, c'est effectivement de recruter une équipe et de développer de nouveaux produits et une nouvelle offre de services.
Même question pour ActiveUp, Marc Tounin ?
Alors nous, on est dans un process de levée de fonds, donc qu'on espère pouvoir clôturer dans quelques mois, on va dire au printemps.
Vous voulez lever combien?
Alors on est en train de lever 300 000 euros en capital, et puis ensuite il y a la banque et BPI qui vont compléter pour un montant équivalent.
Et aujourd'hui, vous êtes rentable?
Alors aujourd'hui, on vient de clôturer notre troisième exercice comptable, qui sont tous les trois rentables. Et donc, on se développe bien. Mais maintenant, on a besoin de passer à une vitesse un peu supérieure. Donc, on cherche à renforcer nos fonds propres pour ça.
Et même question pour vous, Marie. La suite, c'est quoi chez Workwell?
C'est de mettre en place Workwell au sein de quartiers. Donc, d'améliorer à la fois la vie au travail, mais aussi à la maison.
Bravo, bravo en tous les cas. Et merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui nous parler bien-être au travail sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
On reste ensemble et ils vont fêter leurs 60 ans cette année en 2019. Aumerin et l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
La France bouge jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et comme chaque jour, Raphaël, vous nous présentez une entreprise française qui va bien. Celle d'aujourd'hui va fêter ses 60 ans cette année.
Eh oui, 60 ans cette année. Cette entreprise, elle est connue et reconnue au niveau international pour son savoir-faire. C'est Aumerin. Bonjour Xavier Aumerin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes
Merci.
Le PDG du groupe qui porte donc le nom de votre famille. Vous êtes installé dans le Puy-de-Dôme. C'est là que vous fabriquez des câbles électriques. Vous êtes leader sur le marché. C'est votre père qui a fondé l'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'on la connaît en 1959. Mais en fait, l'aventure, elle commence bien avant 1906, je crois. Vous avez hérité d'un savoir-faire dans le domaine du tressage.
Voilà, absolument. Le grand-père de mon grand-père...
L'arrière-arrière-grand-père.
C'est ça. S'est lancé dans l'activité du tressage et de la passementerie à l'époque. Hein, il faisait des lacets de chaussures, des rubans tressés.
Ouais, c'était une région du côté d'Ambert qui était connue pour ça.
Voilà, qui était connue pour ses vallées papetières et avec la force motrice, bien entendu, qui permettait d'entraîner les machines. Et mon aïeul s'est lancé dans cette activité et l'entreprise est restée florissante, même au stade artisanal, pendant près de 60 ans, du début du siècle dernier jusqu'aux années 70. Et puis, mon père, en 1953, avec son diplôme d'ingénieur, a décidé de réorienter l'activité et le savoir-faire du tressage vers le tressage de la fibre de verre et des gaines pour l'isolation électrique.
Mais alors, comment est-ce qu'il a l'idée, justement, d'appliquer, finalement, le savoir-faire familial pour fabriquer des gaines isolantes?
C'est-à-dire qu'il y avait une problématique dans les moteurs électriques, c'est qu'il fallait isoler les sorties de bobinage avec des rubans vernis. Il a trouvé que c'était une bonne idée.
Parce que c'est le même principe.
De fabriquer un tube au lieu d'un ruban, un tube verni pour pouvoir isoler ces sorties de bobinage et permettre aux machines tournantes donc de remplir leur fonction. Et très rapidement, il s'est mis au fil électrique parce que ses clients lui ont dit « Écoutez, plutôt qu'on isole des conducteurs avec des tubes isolants que vous nous fournissez, pourquoi vous ne pourriez pas nous faire des câbles, des fils et des câbles directement isolés avec de la fibre de verre ?» Et c'est comme ça qu'il a fourni pendant plus de 30 ans les fabricants d'électroménagers de Diedrich, Scholtes, Rosière, enfin d'autres des marques qui sont connues ou qui étaient connues. Et puis le Roy Sommer, le fabricant de moteurs. Et puis les choses après ont bougé, se sont étendues.
Alors justement, en 20 ans, l'entreprise connaît, on peut le dire, un vrai boom parce que l'électrique arrive partout à l'époque quand votre père se lance sur le marché. En 1980, je crois que vous êtes déjà 120, c'est ça, dans l'entreprise. On est en francs à l'époque, 40 millions de francs de chiffre
c'est
d'affaires.
C'est ça, voilà. Je rejoins l'entreprise familiale en 1984-85. L'entreprise a 120 salariés, 40 millions de francs de chiffre d'affaires. Un très beau résultat, une entreprise en excellente santé. Déjà, mon père a anticipé et avait diversifié ses activités en lançant une première filiale en 1976 qui fabriquait des tuyaux flexibles pour le sanitaire et le génie climatique. Et il avait déjà bien étendu sa gamme de produits vers des câbles qui étaient non plus tressés ou rubanés ou isolés en composite, mais extrudés en élastomère de silicone qui, aujourd'hui, on le sait, est un matériau extrêmement porteur. Neutre, inerte, résistante aux hautes comme aux basses températures. Et aujourd'hui, nous sommes les premiers fabricants mondiaux de fils et câbles en élastomère de silicone.
Ça veut dire que vous avez pris le virage technologique, vous, quand vous arrivez. C'est ça qui a permis le développement de ce qui est aujourd'hui un leader mondial sur ce marché-là? Parce que vous êtes quand même 1200 aujourd'hui.
Oui, alors après, si vous voulez, dans les années 90, on a allié la croissance interne avec des constructions, avec des investissements lourds, importants, et avec aussi le lancement de politiques commerciales un peu plus ambitieuses, plus agressives, y compris une politique export que j'ai démarré au début des années 90. On l'a allié avec une politique de croissance externe à partir de 97, notre première acquisition d'une petite câblerie, puis après des concurrents, des offres complémentaires, toujours dans un esprit et dans l'idée de compléter nos gammes, d'étendre notre mix produit et surtout de diversifier aussi nos productions et notre offre.
Que dit notre coach?
J'ai déjà une question. Combien de pourcentage de la Terre est électrisée? C'est-à-dire sur combien d'autres pourcentages vous allez encore pouvoir mettre des câbles électriques?
Alors, il y a une différence. C'est-à-dire que quand on dit on fabrique des câbles, les gens imaginent qu'on fait tout de suite des câbles sous-marins, souterrains, et qu'on alimente toute la Terre entière en énergie électrique. Or, notre spécialité, c'est précisément pas ça. C'est-à-dire que spécialité, c'est le câblage interne des machines électriques.
Donc vous êtes dans l'automobile par exemple,
dans les véhicules, dans les bateaux, dans les véhicules, dans l'électroménager ou dans les circuits aujourd'hui, dans les ENR beaucoup, hein, dans les énergies renouvelables, le raccordement de panneaux solaires, on est dans les systèmes, on est dans les mises hors gel aussi, la mise hors gel des systèmes.
Et c'est combien de kilomètres de câbles tout ça à l'année?
Alors c'est 600 000 km de câbles, c'est vraiment à la louche, hein, parce
que c'est à peu près, oui.
On fait une fois et demi le tour de la Terre, ouais. Et puis surtout on a 130 000 références produits et 60 millions de mètres de câbles en stock.
Et vous faites sur 210 plateformes. Millions d'euros de chiffre d'affaires, 11 sites de production, c'est ça?
Voilà,
aujourd'hui
c'est ça, dont 3 à l'étranger.
Comment on fait pour rester dans la course aujourd'hui? On trouve de nouvelles applications, de nouveaux produits, on essaye de vendre des solutions aussi?
Cette question on se la pose tous les ans. Et à la fin des années 90, on a compris qu'il fallait changer notre modèle. On avait appris pendant toutes ces années à fabriquer des câbles, à aller les vendre à l'ancienne avec un catalogue sur une foire expo, etc., avec des commerciaux, etc. Et à partir des milieu des années 90, on a commencé à digitaliser nos données. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si on veut agrandir, si on veut recruter, si on veut offrir au plus grand nombre, et en plus dans tous les secteurs, parce qu'on est multisectoriel, non seulement multisectoriel, international, nos produits, il faut pouvoir permettre à nos clients et surtout à tous nos collaborateurs d'avoir accès extrêmement vite à la juste information au juste moment. Et donc nous avons attaqué la digitalisation de nos données, et je dois dire que les 10 ou 15 dernières années, notre progression, elle a beaucoup reposé sur notre modèle, plus que sur notre savoir-faire industriel.
Vous étiez devenu efficace en digitalisant vos données, vous êtes devenu efficace.
On essaye d'être rapide, on essaye d'être vif et on essaye d'être rapide, d'apporter un service rapide et une information rapide à nos clients.
Et manifestement ça marche puisque vous êtes numéro un mondial des câbles électriques, c'est Homerin, le groupe Homerin, merci d'être
venu nous en parler.
C'est l'entreprise qui va bien. Merci aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h49.
Europe 1.
Elle veut imaginer le monde de demain pour les enfants avec eux. Startup for Kids est la solution aujourd'hui sur Europe 1, nommée aussi dans la catégorie éducation au trophée de l'avenir. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec vos invités Raphaël Duchemin. Et tous les jours, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Aujourd'hui, elle s'adresse en ce jour de rentrée à nos enfants.
Et des solutions, on vous en a proposé beaucoup depuis la rentrée. Évidemment, si vous êtes à l'écoute dans La France bouge, vous le savez, il y a ici des talents qui se succèdent au micro d'Europe 1. Eh bien, ces talents, vous allez pouvoir les retrouver dans les trophées de l'avenir. Les trophées de l'avenir, notez bien la date, ce sera le 11 février. Et justement, l'entreprise dont nous allons vous parler aujourd'hui en fait partie, nommée dans la catégorie éducation. Elisabeth, on va s'intéresser en fait avec elle aux métiers de nos enfants, les métiers de demain. On ne sait pas forcément ce qu'ils vont faire. Alors, tout simplement pour les aider à se préparer au code, à la création d'entreprise, on a la solution. Elle s'appelle Startup for Kids.
Et oui, faire de l'apprentissage un jeu d'enfant, jouer en apprenant. Startup for Kids a été créé en 2015 et l'idée, c'est d'organiser des événements pour des jeunes âgés notamment de 6 à 14 ans en présence de leur famille ou encore des professionnels de l'éducation dans le but de les préparer au monde professionnel de demain. Et oui, on ne sait pas forcément quel métier auront nos
nos enfants demain. Alors à travers des ateliers pédagogiques, avec toujours le plaisir d'apprendre et de donner aux jeunes l'envie d'explorer.
Et la fondatrice de Startup for Kids est avec nous. Bonjour Sharon Soffer.
Bonjour.
Merci d'être là. Racontez-moi, c'est venu comment cette idée ?
Alors, j'aime bien raconter, c'est venu un peu par accident, hein, comme,
arrive,
souvent, comme souvent
les bonnes idées.
Et en fait, le projet initial était autour de la science. Et c'est né d'une problématique personnelle, puisque j'avais une petite fille qui adorait la science et je cherchais comment développer sa découverte de la science sans se focaliser. Et j'ai lancé un premier projet qui s'appelait Scientibox. Et puis finalement, en développant Scientibox et en travaillant son côté commercial pour le faire connaître, j'ai organisé une première édition de Startup for Kids. Et en fait, c'était en 2015. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait un vrai engouement et un vrai besoin, puisque avec un mini budget, on a fait une édition qui a regroupé 1500 visiteurs. On a regroupé 30 startups de l'éducation. Et du coup, les parties prenantes étaient enthousiasmées par le projet. Et on a continué Startup for Kids.
Alors depuis 2015, concrètement, comment ça se traduit ? Quelles sont vos actions ? Vous organisez des ateliers ? Vous appelez d'autres entreprises ? Comment ça se passe ?
Alors très concrètement, c'est un événement. On imagine 2500 à 3000 visiteurs, donc beaucoup d'enfants, puisque pour la moitié, c'est des enfants.
Donc des écoles, potentiellement ?
Ça peut être des écoles, ça peut être des familles. C'est typiquement sur 2 ou 3 journées, donc week-end et semaine. Et ils se retrouvent pour participer à des ateliers. L'idée, c'est de leur montrer qu'il y a de nouvelles façons d'apprendre, qui sont certes ludiques, appuyées sur le numérique ou pas sur le numérique, mais qui parlent des compétences de demain. Puisqu'on en parle beaucoup, les compétences se transforment, les enfants changeront plusieurs fois de métier au cours de leur vie. On va leur demander d'être beaucoup plus créatifs, de travailler en équipe, de savoir parler en public, de développer leur esprit critique. Et donc, c'est ce type de compétences qu'on met en avant, qu'on valorise et qu'on leur propose de développer et d'explorer.
Donc, par exemple, vous leur apprenez à créer une entreprise, à pitcher, comme on dit, à présenter un projet.
Alors,
des choses que nous-mêmes, on apprend aujourd'hui en tant qu'adulte.
Alors, on peut le faire. En fait, il y a énormément de blocs, on va dire, différents pendant Startup for Kids. Et avec les enfants, on leur propose, alors c'est très, très ludique. On appelle ça des hackathons, hein, mais on leur propose de créer un projet. Hein. Alors, on ne leur parle pas d'entrepreneuriat, etc., mais on va leur donner une thématique, une problématique. Imaginez le bâtiment propre de demain ou la mobilité du futur dans un monde où l'énergie doit être forcément propre, où il y a 2 fois plus d'habitants à Paris. Enfin, on leur donne un problème et ils ont une journée ou plusieurs jours, parce qu'on est en train de développer un format plus long, hein, pour en fait trouver
pour
une
solution
et créer la solution et être capable de la pitcher. Hein.
Qu'en pense notre coach, Riyad ?
Déjà, ils sont accompagnés, les enfants, lors du projet ?
Alors, ça va dépendre de l'âge. Et accompagnés, oui, il y a des mentors, des facilitateurs. Alors, ça dépend de l'âge des enfants. Pour les plus petits, c'est vraiment très, très ludique. Donc, on les encadre surtout pour les animer. Et pour les plus grands, l'idée étant de leur donner encore plus d'outils. Il va y avoir tout au long de la journée ou des journées des professionnels qui viennent les accompagner, soit des experts métiers, soit des gens pour les aider à travailler leur pitch.
Et à la fin, ils en sortent quoi ?
À la fin, il en sort.
Alors, mais un grand moment de plaisir pour les enfants, j'en doute pas.
Alors, ils sortent
des projets. Attendez, je suis sûre qu'ils sont plus imaginatifs que nous.
Ils sont extrêmement imaginatifs. Ouais. Et alors, l'idée de départ, c'est vraiment uniquement de les faire réfléchir. Nous, notre enjeu, c'était vraiment uniquement de leur donner ces outils, de leur faire découvrir qu'ils ont des capacités en eux, de leur montrer que le numérique, c'est un outil comme un autre, etc. Mais au final, à chaque fois, il en ressort des projets hyper intéressants.
Des idées originales, ouais.
Originaux, très réalistes, faisables. En particulier, l'année dernière, on avait fait un hackathon sur le lycée du futur. Et il y avait des directeurs d'établissements qui étaient présents et qui ont repris des idées en fait, pour les intégrer dans leurs établissements.
C'est eux qui sont retournés à l'école.
Pour retourner à l'école et surtout, ils ont une vision extrêmement lucide. C'est ça qui était surtout marquant. C'est que c'est des choses qui sont vraiment ancrées dans la réalité. Ils ne partent pas du tout dans des trucs farfelus. Alors certes, c'est le contexte qu'on leur donne, mais le lycée, par exemple, était très bien pensé. Ils ont repensé les heures de cours, le rôle de l'enseignant, et c'était extrêmement intelligent. Et les profs étaient époustouflés.
Un mot encore, Elisabeth ?
Startup for Kids, c'est combien de salariés ?
Alors, aujourd'hui, oui, il y en a. Et aujourd'hui, la 5e salariée est arrivée.
Félicitations.
Et les projets ?
Les projets sont nombreux. On fait la première édition sur 5 jours justement du hackathon pour les 12-20 ans durant la première semaine des vacances de février, donc du 25 au 30 février. Et les prochaines éditions
au
29 février, donc au 1er mars. Je rate les jours. Et les prochaines éditions de Startup for Kids, c'est le 24-25 mars sur les enfants à besoins éducatifs particuliers à l'école 42 Porte de Clichy. Et la semaine suivante à Centrale Supélec, Startup for Kids. Voilà.
Startup for Kids, qui est donc dans la catégorie éducation au Trophée de l'Avenir d'Europe 1. Je vous le rappelle, ce sera le 11 février. Vous allez voir, on va encore vous faire découvrir de très belles pépites. Merci à Riyad d'avoir été notre coach aujourd'hui. Elisabeth,
à demain,
on se retrouve demain. Nous parlerons des solutions justement à la veille des soldes.